France Culture.
Bonsoir Yam Abbas.
Bonsoir Alain.
On se retrouve depuis le début de cette semaine dans votre salon, dans cet appartement du 12e arrondissement de Paris. Ce soir, c'est notre dernier entretien à voix nue de la semaine. Alors hier, nous terminions notre discussion sur votre détestation des paillettes, du moins pour ce non-attrait pour les feux de la rampe. Alors, qu'est-ce qui vous dérange dans les paillettes ?
Ça me dérange, je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, glisser dans la peau d'un personnage, et je ne sais pas, quelque chose qui me correspond plus, qui correspond à mon être et qui je suis, glisser dans une robe pour me montrer, je trouve que c'est quand même quelque chose à côté peut-être de ce que j'aime être et faire dans la vie. Après, je le fais et j'essaye de m'amuser et d'avoir... le plus de plaisir possible, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement ma tasse de thé. Si je peux éviter, j'évite et j'ai pas mal évité des soirées parce que j'ai vraiment pas envie en fait. Alors je fais les festivals, j'essaye de faire dans le monde de paillettes le nécessaire et le plus voilà l'essentiel. L'essentiel parce que effectivement. La réalité fait que ça fait partie aussi de ce métier et il faut le faire, donc je le fais.
Alors vous êtes née, comme on l'a dit au début de cette semaine, palestinienne, israélienne, puisque votre famille a donc a décidé de rester là-bas. Puis aujourd'hui, vous êtes une palestinienne de la diaspora. Alors comment on fait pour exister comme palestinienne en diaspora, comme si la Palestine était devenue quelque chose de très lointain, de très imaginaire. C'est ce qui permet de vivre sa palestinité en diaspora.
Moi, je crois pas, en fait. Je crois pas que c'est quelque chose duquel on s'éloigne physiquement, peut-être, mais pas mentalement, pas émotionnellement. Je crois que c'est, ça reste là. C'est un rappel à l'ordre, quelque part, parce que la discipline fait partie, en fait, la Palestine fait partie de ma discipline. Elle fait partie de mon quotidien, elle fait partie de mon imaginaire, elle fait partie de mon regard envers l'autre, elle fait partie de mon regard envers même les personnes qui peut-être font du mal à mon peuple. En fait, la Palestine me remplit d'humanité. Et cette humanité, je crois qu'elle est dans mon quotidien. Cette humanité est ce qui est ma motivation de vie. Donc, j'ai pas l'impression que parce que je suis partie, c'est devenu une forme de nostalgie, la Palestine. Elle n'est pas nostalgique, la Palestine, dans mon être. Elle est juste présente. Elle est présente et elle me remplit.
Et alors, comment elle se transmet, cette Palestine, à vos deux filles, Lina et Mouna, donc qui ont un père d'origine algérienne et une mère palestinienne. Alors, quel héritage on transmet et qu'est-ce que c'est? Il est fait de quoi, cet héritage?
Je crois que déjà, cet héritage est de tout ce qu'ils lisent de moi. C'est leur lecture de qui est leur mère, de sa langue, de sa façon d'être, de ses attaches à ses parents, ses attaches à sa patrie, c'est sa façon de voir le monde. C'est peut-être aussi, en quelque sorte, les rendre sensibles à la souffrance de l'autre aussi, pas seulement à leur propre souffrance. Je crois que dans cet héritage, il y a vraiment toute une éducation, une valeur et des valeurs de la vie et de ce que c'est la vie pour tous, pour chacun de nous, êtres humains sur cette terre. Donc aussi, c'est connaître le personnel, connaître l'individuel et ne pas oublier l'universel. Ça, c'est quelque chose de très important aussi dans cet héritage. Il n'y a pas que la Palestine qui fait que je suis palestinienne. Je crois qu'il y a la Palestine avec des multitudes d'autres souffrances qui fait que je suis palestinienne.
Et alors comment, parce que votre fille Lina Swalem, celle qui a donc réalisé ce film documentaire Bye Bye Tibériade en 2023, ce film qui revisite donc l'histoire des différentes générations de femmes de votre famille, elle se décrit souvent comme étant entre deux mondes, à la croisée d'identités multiples. Ça doit être compliqué. C'est quelque chose que vous discutez souvent avec elle, avec vos enfants.
C'est des interrogations, effectivement, que je crois font de la personne qui il est et qu'on essaye, avec en avançant dans la vie, de trouver des réponses. C'est pas dit qu'on trouve des réponses toujours. Des fois, même quand les choses restent en questionnement. Et il vous permet d'avancer plus dans la vie, étant conscient de tout ce qui se passe autour de soi, que quand on trouve les réponses. Dans les réponses, on se stagne quelque part. Et donc, je crois que aussi mes filles et Lina, dans ses interrogations cinématographiques, j'ai envie de dire, parce qu'elle s'est consacrée au documentaire, et donc le documentaire, il relève aussi de la pensée, il relève de se situer par rapport à ce qu'on raconte, et donc à un point de vue qu'elle a. Je crois que tous ces questionnements aussi sur l'identité, l'appartenance, font partie aussi de l'héritage de Lina. Donc, je crois pas que c'est quelque chose de négatif. En fait, comme certains veulent toujours le mettre à cet endroit-là, au contraire, moi, je crois que c'est quelque chose qui enrichit la personne de Lina et enrichit aussi sa manière de voir le monde et s'attacher au monde avec tous ces problématiques. Aujourd'hui, on vit des temps terribles. Et ces temps terribles, on ne peut pas les regarder d'une manière anodine. En fait, c'est tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ça relève aussi de la sensibilité, parce que on a hérité des choses qui nous rend politiques au quotidien.
Et alors cet héritage, il s'incarne par ces quelques photos qui sont collées au mur de ce salon, qui sont ces personnes qui...
Ma mère, mon père... ma grand-mère et moi, parce que Lina n'arrête pas de me dire depuis ce film que je ressemble à ma grand-mère, donc je l'ai mis à côté de moi pour voir. Et deux photos de moi quand j'étais petite. Je les aime beaucoup parce que dans la photo où je suis petite, je vois mon côté rebelle déjà depuis que je suis... Ça me fait rire en fait, ils me font rire ces photos. Mais l'héritage, il n'est pas ces photos. L'héritage, il est vraiment, encore une fois, très multiple, en fait. C'est beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et ces souvenirs, j'ai l'impression, c'est qu'ils sont, ils sont vraiment toutes les composantes de qui je suis aujourd'hui.
Et il faut transmettre, c'est une nécessité de transmettre pour pas disparaître, pour justement dans un contexte palestinien très déprimant, comme si la Palestine s'apprêtait justement à disparaître physiquement et les nouvelles...
Il y a un devoir de mémoire, oui, effectivement, et de transmission. Surtout quand on est en voie de disparition, en fait. Ça, je crois que c'est plus fort encore, mais le devoir de transmission, je crois, doit exister dans notre vie en général. On ne doit jamais oublier ce qui s'est passé. Jamais. Pour moi, c'est très important de se rappeler de toute l'histoire et de vraiment continuer à avancer dans notre présent vers un avenir beaucoup plus sain, en sachant analyser, en sachant ce qui s'est passé pour ne pas répéter peut-être je le dis simplement, mais peut-être pour ne pas répéter les fautes. Mais c'est pas possible quand on sait le XXe siècle, ce qu'il a laissé le XXe siècle, qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on vit, c'est résultat aussi de tout ça. C'est quand même terrible et horrible de dire que je peux fermer les yeux sur cette catastrophe humaine qui s'est passée, où toutes ces catastrophes, ces deux guerres mondiales qui se sont passées, avec tout ce qui s'est passé dans la guerre de 40, aujourd'hui, on le vit. D'une manière ou d'une autre, on le vit et ça nous revient dans la gueule, pardon pour le mot, mais à chaque instant, quoi.
D'ailleurs, il y a quelques jours, vous étiez à Buchenwald, avec une trentaine de jeunes Français et Allemands. Alors racontez-moi cette expérience. Vous avez lu les paroles de Georges Samprin.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est que ce projet ? C'est...
Ben, je travaille depuis quelques années théâtralement aussi avec un metteur en scène, Jean-Baptiste Sastre, et acteur, avec lequel on essaye de faire des projets de théâtre, mais les ancrer dans une réalité autre que le théâtre classique, dans le sens où, là, quand on est tombé sur le texte de Georges Samprin, L'écriture ou la vie qui relate son expérience de déporté à Buchenwald, on voulait faire quelque chose, et ça tombait bien parce qu'en 25, maintenant en avril, là, le 11 avril, c'était en fait le 80 anniversaire de la libération du camp. Et donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé pour monter un projet avec une jeune génération, pour rester dans ce devoir de transmission, pour pouvoir transmettre les paroles de cet écrivain dans le cadre de cette commémoration, pour inscrire vraiment ses mots et pouvoir transmettre son message. Parce que lui-même, il dit, qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura personne pour témoigner ? Et donc, ces jeunes... 15 Français, 15 Allemands qui viennent des backgrounds différents. Et on a des jeunes de Clichy-sous-Bois, on a des jeunes de Bourges, on a des jeunes de Paris, on a des jeunes de Berlin, on a des jeunes de la Thuringe, un endroit qui est complètement rempli aujourd'hui avec une extrême droite allemande très, très dangereuse. Et donc, tous ces jeunes se sont trouvés pour réciter les mots de Georges Samprin dans le camp in situ, pour le jour de la commémoration, et notamment dans un autre théâtre à Weimar, à Berlin par la suite, donc j'en reviens là, et en juin, on le fait chez Ariane Noshkin au Théâtre du Soleil du 12 au 22 juin, avec le même groupe qui se déplace de l'Allemagne vers la France, avec les Français qui sont là, et on fait 10 représentations au Théâtre du Soleil.
Et alors, quel sens a Yamabas pour vous d'être partie prenante de ce projet, une Palestinienne à Buchenwald? C'est symboliquement important pour vous d'être là-bas?
Moi, je le vois pas en tant que symbole, en fait. Je vois toujours dans la continuité de mon travail, en fait, c'est un écrivain avec lequel je l'ai rencontré à travers son récit, je l'ai rencontré à travers ses sensibilités, je l'ai rencontré à travers son côté fervent, européen fervent. Et aujourd'hui, je me considère aussi palestinienne et française et européenne. Et je crois que j'ai un devoir aussi envers... Ça fait 37 ans que je vis en France, ça fait 37 ans que je vote en France, j'ai des enfants français, j'ai tout un passé en France aujourd'hui, et j'ai un devoir aussi en tant qu'artiste qui vit en France, de défendre et de pouvoir transmettre aussi cette mémoire qui a quand même aujourd'hui en train de faire des répercussions, que ça soit sur la haine raciale, sur le refus de l'autre, sur tout ce questionnement de l'étranger et de l'intégration qui devient presque sans sens, en fait, parce qu'on utilise les mots aussi, des mots vraiment d'une manière très gratuite pour juste dire, quoi. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a un fond de pensée qui est éradiqué, qui est parti de nos sociétés, de notre société moderne, et on se trouve aujourd'hui souvent à la marge de la société parce qu'on on était casés à cet endroit. C'est comme si on ne peut pas porter des choses littéraires, artistiques, à part les hip-hop quand on est de banlieue, à part je ne sais pas quoi quand on est de je ne sais pas où. Et aujourd'hui, moi, je trouve que le fait que je suis palestinienne m'oblige à regarder ça aussi. Donc, je me considère pas une Palestinienne à Buchenwald, je me considère une actrice, une metteuse en scène aussi, qui, cette partie de l'histoire, l'intéresse, et cette partie de l'histoire, elle doit être touchée. Elle doit pas être un tabou. Elle doit être touchée, elle doit être dite, elle doit être témoignée, et elle doit donner un message fort à ce qui se passe aujourd'hui.
Mais pourquoi c'est important de dire « en tant que Palestinienne, je dois faire ça » ?
Parce que comme on avait discuté déjà avant, cher Alain, Je crois que le fait que je suis palestinienne me rend très sensible à la souffrance. Et quand il y a souffrance, j'ai une place pour exister.
Alors c'est quelque chose que vous avez transmis à votre autre fille, Mouna, parce qu'elle, elle est comédienne. Il faut toujours jouer chez les Abbas. Il faut jouer, il faut se présenter sur scène, il faut clamer, il faut déclamer, il faut. C'est quoi? C'est cette volonté toujours de dire au monde de résister.
Je crois que ça, c'est plutôt par l'héritage ou la transmission qui a été faite, mais pas nécessairement le métier lui-même. J'ai jamais vraiment imaginé ni pensé que ça soit Lina à être réalisatrice ou Mouna à être actrice. Je crois que toutes les deux, ils ont trouvé leur vocation dans la vie de cette manière-là. Est-ce que par l'influence de l'héritage? Franchement, je l'analyse pas en tant que telle. Pour moi, la transmission a été faite d'une manière très ouverte et très libre entre mes filles et moi. Et leur choix se posait à certains moments. Et je ne pouvais que bénir leur choix et les laisser faire. Après, est-ce que le parcours de Lina et le parcours de Mouna, ils seraient toujours dans ce sens-là? C'est à elle de décider.
Après le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas, vous avez souhaité ne pas vous exprimer compte tenu du contexte. Et le 8 novembre 2023, quand j'assistais à l'Institut du Monde Arabe à l'avant-première du film documentaire donc de votre fille Lina Swalem, intitulé donc Bye Bye Tibériade, vous êtes montées toutes les deux sur scène et vous avez dit « Nous ne sommes pas qu'en deuil, nous sommes laminés moralement, physiquement, culturellement, je vis un trauma de guerre ». Qu'est-ce que ça veut dire, Yama Bass?
En fait, ça veut dire qu'à l'époque, en fait, on parle de ça comme si c'était il y a 50 ans, mais à cette date spécifiquement, c'était un mois après effectivement le 7 octobre, et c'était le moment où le film Bye Bye Tibériade, donc de Lina, était en train de parcourir certaines projections un peu par-ci par-là. Et effectivement, à chaque fois que on se trouvait en sur scène pour présenter le film ou parler du film, ça a été une partie en fait très douloureuse pour nous à l'époque, parce que aussi le résultat de 7 octobre par la suite était très moche. Les répercussions d'Israël sur Gaza étaient vraiment d'une virulence et on comptait les morts par milliers. Donc moi, il y a quelque chose qui à l'époque, et je me souviens jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je le dis, c'est j'ai l'impression que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter voir des enfants mourir de cette façon. Je suis mère. Et j'ai enfanté dans cette vie des enfants qui ont le droit de vivre. Et comme Lina et moi étaient sur scène souvent, qui ont parlé de pouvoir achever quelque chose d'un rêve, de pouvoir faire un film, le montrer aux gens, c'était aboutir à quelque chose dans nos vies. Et voir ses enfants mourir sans aboutir même à arriver à l'âge de 2 ans ou 3 ans et qu'ils meurent avec tous leurs rêves, pardon, ça m'est très difficile. Émotionnellement, ça m'est très difficile. Et je me souviens que à chaque fois qu'on montrait le film à l'époque, tout ce qu'on avait en tête, c'est vraiment ces images de cette horreur, en fait. Cette horreur qui s'est passée à ce moment-là. Et malheureusement, avec les jours, on s'habitue pas, en fait. C'est difficile. On dit des fois la douleur ou la peine, elle devient banale, mais il y avait aucune banalité à ça. Ça allait de pire en pire, en fait. Et du coup, ça m'a accompagnée tout le temps. Et effectivement, une fois que le film, à chaque fois, était terminé, je me trouvais devant le public comme si on avait un devoir de répondre. Et des fois, j'avais pas le courage. J'avais pas le courage de répondre parce que c'est comme si les mots m'échappaient, en fait. C'est comme si mon système émotionnel et mental ne se rencontrait plus pour pouvoir dire ce que j'avais vraiment envie de dire ou ce que je pouvais dire à l'époque. Et j'ai cherché vainement des fois les mots.
Alors, ce qui est fort dans le film de votre fille, qui questionne les femmes de votre famille, c'est qu'on se rend compte que l'histoire de votre famille, comme celle, j'imagine, de la totalité des Palestiniens qui vivaient là-bas avant 48, la question du traumatisme, elle est présente. C'est des couches successives de traumatisme. C'est ça qui fait avancer aujourd'hui. Qui vous fait avancer, qui fait avancer vos filles et la jeune génération de Palestiniens, de cinéastes, de comédiens, de créateurs.
Je crois qu'avec le traumatisme, il y a toujours l'amour de la vie, en fait. J'ai l'impression que c'est toujours un appel à la vie. Vous savez, on dit des fois, quand les morts, ils sont là, il faut vivre pour eux. Il faut vivre pour ceux qui ont péri dans ces situations-là. Et en vivant, on leur rend quelque part la vie, et c'est important de toujours penser à ces personnes sans nom, souvent des gens qui on enterre par milliers, par des dizaines, par des centaines, par ce qu'on veut. Le chiffre n'a plus même d'importance quelque part, parce que il n'y a pas d'identité, c'est une identité unique. On dirait que tous ces morts, ils sont un seul mort. Or, ces morts, ils avaient leur famille, leurs histoires, leur personnalité, leurs rêves, chacun. Et j'ai l'impression que on a ce devoir de leur rendre hommage pour qu'ils restent vivants parmi nous.
Alors, comment ça se passe? Comment on fait?
On fait ce qu'on fait. On raconte leurs histoires. On va à Buchenwald pour rendre hommage. On relève les mots de Georges Semprin pour lui rendre hommage et rendre hommage à tout ce qu'il a rencontré dans sa vie et dans le camp et ce qu'il a raconté de toutes ces victimes qu'il a vues. On rend hommage à tous les morts, à tous ces enfants qui tombent. Et on dénonce l'horreur. Je crois que par les littératures et par l'art, on a une arme très très forte pour pouvoir dire ça. Donc il faut saisir l'occasion à chaque moment.
Et est-ce que cette situation fait que l'exil que vous avez choisi prend un sens différent?
Il facilite peut-être la chose, parce qu'on est un peu en distance. Donc peut-être on peut regarder les choses un peu différemment. C'est comme quand on dit dans la vie, quand on est au milieu d'un problème ou d'un conflit, on n'a des fois pas assez de recul pour pouvoir voir les choses claires. Peut-être l'exil permet ce recul, ce regard qui reste... Il reste vivant, il reste tangible, mais il est quand même, c'est un regard qu'on peut porter quand on est peut-être en exil. Peut-être, vraiment, j'ai aucune certitude sur les choses que je ressens et que je dis, parce que effectivement, quand on parle de l'horreur, quand on parle de la haine, quand on parle de ces moyens d'éradiquer quand même, comme ça, de l'être humain avec une facilité redoutable, je crois qu'on reste toujours un peu douteux sur le comportement de l'homme avec un grand H. Et on se pose beaucoup de questions sur le mal, et le mal absolu qui nous ravage et qui restera toujours un projet personnel. À chacun, c'est ce que Semprin dit. Le mal absolu, aujourd'hui, est un projet personnel de chacun. C'est une décision. On va vers lui ou on le contre dans la vie. Et on a tous les choix. Il faut juste être à la hauteur.
Alors, quels échos vous recevez de cette Palestine dans laquelle vit encore toute une partie de votre famille?
Toute ma famille, en fait, presque. J'ai que deux sœurs qui sont parties de là-bas, mais le reste de ma famille est là-bas. Quel écho, c'est très trouble. C'est vraiment très trouble. C'est trouble pour moi, c'est trouble pour eux, c'est trouble pour tout ce que je reçois. C'est trouble de mes amis des deux côtés, c'est très trouble.
Ça veut dire quoi, trouble ?
Trouble, ça veut dire que c'est vraiment dans des zones très très grises et qui tirent vers le noir plutôt que vers le blanc.
Alors on va peut-être boucler la boucle parce que au début de la semaine, vous nous parliez de votre amour de la poésie de Gibran Khalil Gibran, ce poète libanais mis en musique et en chanson par cette grande dame, Fairouz, grande chanteuse libanaise de 90 ans. Alors est-ce que vous relisez du Gibran Khalil Gibran pour vous échapper de toute cette noirceur ? Est-ce que vous écoutez l'iconique Fairouz chanter ?
Oui, oui, oui. Alors Gibran, peut-être je le lis moins, parce que je l'ai lu beaucoup quand j'étais jeune et qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup nourri à l'époque. Après, bon, là en plus, je lis dans d'autres langues que l'arabe. Donc je lis d'autres écrivains en français, en anglais. Et j'écoute Fairouz. Oui, Fairouz, c'est quelqu'un qui reste très présent dans ma vie. Et sa voix, vraiment, pour moi, elle est une voix presque spirituelle. Elle remet de l'esprit et elle remet... elle a une telle âme, cette chanteuse. Et sa voix provoque aussi vraiment un attachement à la beauté et un attachement à l'espoir, en fait.
Qu'est-ce qu'elle vous raconte, Fairouz, intimement ?
Beaucoup. Elle raconte l'amour, elle raconte la poésie. Surtout, ce que vraiment me plaît beaucoup chez Fairouz, et ce que Fairouz raconte, c'est la poésie. Pouvoir chanter la poésie de la manière dont elle la chante, ça importe, ça amène au loin, ça transcende, en fait, des fois la réalité, et ça permet... l'espace de rêve et l'espace d'exister en liberté.
Et malgré son âge, elle reste d'une actualité évidente.
Elle est redoutable, absolument. J'aimerais bien la rencontrer, je ne l'ai jamais rencontrée, mais j'espère que j'arriverai à la rencontrer un jour.
Eh bien écoutez, merci infiniment Yam Abbas de nous avoir reçus toute cette semaine ici, chez vous, dans votre espace d'intimité, pour nous raconter à voix nue, pour France Culture, cette vie riche et multiple. Merci pour vos cafés, très bons au demeurant, merci pour votre temps, votre simplicité, et je vous souhaite donc, comme à toutes nos auditrices et nos auditeurs, une très bonne fin de soirée à l'écoute des programmes de France Culture, évidemment. Merci beaucoup, Yam Abbas.
Merci. Merci, merci beaucoup à vous tous. Merci.
Merci. C'était À Voix Nue, Alain Lefkovitch avec Yam Abbas, chargé de programme Daphné Abgral, à la prise de son Thomas Robin, à la réalisation Guillaume Baldi, une série que vous pouvez bien évidemment réécouter sur le site et l'application Radio France.